Caroline Saillonne et bonjour.
Bonjour Christophe et bonjour à tous.
Une personne est en garde à vue dans l'enquête ouverte pour homicide volontaire après le décès d'un homme hier matin à Moriane.
Et oui, un homme a été interpellé en fin de journée. Il est entendu par les gendarmes. C'est ce qu'indiquent nos confrères de Corse Matin. Dans cette affaire, un homme de 38 ans est décédé des suites de ses blessures dans des circonstances qui restent à préciser. L'alerte avait été donnée aux alentours de 6h30 hier matin par un voisin qui a découvert la victime à l'entrée de son logement. L'homme présentait donc une importante plaie au cou. Hélène Battini.
Une blessure fatale et ce malgré l'intervention rapide des secours sur place. L'homme de 38 ans, pris en charge par les pompiers et envoyé au centre hospitalier de Bastia, y est décédé peu après son arrivée, présentant au moins une plaie à la gorge susceptible d'être la conséquence d'un tir par arme à feu, selon le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, qui n'indique pas pour l'heure si la victime était connue ou non de la justice. Son identité ne nous a pas non plus été confirmée à cette heure-ci. Ce sont les investigations et les examens médico-légaux en cours et à venir qui devraient permettre de déterminer les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits. Une enquête désormais entre les mains des gendarmes de la brigade de recherche de Ghisonaccia et ceux de la section de recherche de la Haute-Corse.
Et après la découverte du corps d'une octogénaire ce week-end à Prouny, Livio Mourbou, l'un de ses proches est en garde à vue.
Oui, cette personne est entendue par les gendarmes de la brigade de Ghisonaccia depuis la découverte du corps de cette femme de 88 ans ce dimanche à son domicile. Aucune précision sur l'identité de la victime ne nous a été confirmée pour l'instant. Les circonstances de ce drame restent également à déterminer. L'autopsie permettra d'en savoir un peu plus.
Deux chefs d'entreprise mis en examen pour entente illicite dans un marché d'export de déchets.
Il s'agit en fait de Patrick Roca et de Ange-Michel Morachini. Le dossier porte sur l'export de 21 000 tonnes de déchets de la Corse vers le continent, des déchets qui s'étaient accumulés durant la crise sanitaire de 2020. Ils ont été mis en examen en fait en septembre dernier dans cette procédure initialement ouverte pour des faits de favoritisme, puis étendue à ceux d'entente illicite. C'est la commission d'appel d'offres du CIVADEC qui leur avait attribué le marché. La procédure d'urgence avait été lancée par les services de l'État. Les deux chefs d'entreprise nient les faits qui leur sont reprochés.
Le dossier des dégradations commises contre la sous-préfecture de Calvi en mars 2022 devant la cour d'appel hier.
Un des faits qui s'était déroulé en fait en marge des rassemblements de soutien à Yvan Colonne. Trois jeunes mineurs avaient été condamnés en première instance, c'était en juillet, solidairement à quelques 100 000 euros d'amende, somme jugée disproportionnée par la défense qui avait donc fait appel. Par ailleurs, l'un de ces jeunes mineurs, Lisandro Colombani, condamné au pénal, a aussi fait appel de la décision. Le ministère public a requis la relaxe. Le jugement, lui, a été mis en libéré au 22 avril.
L'hôpital d'Ajaccio à la pointe de la technologie.
Et oui, ce grâce à un robot chirurgical qui assiste le chirurgien dans quatre spécialités, chirurgie thoracique, urologique, gynécologique et digestive. Son coût, 2 millions d'euros, avec un objectif à long terme de 250 à 300 opérations par an. Après Bastia, ce robot est donc le second qui permet, dans l'île et au centre hospitalier de la cité impériale, de faire un bond dans le futur, Paul Ortoli.
Les quatre bras d'une pieuvre mécanique opèrent un patient particulier sur un brancard. Il s'agit d'un pelvitrainer, un simulateur qui reproduit la complexité des tissus du corps humain. Aux commandes du robot, le docteur Thomas Besnard.
C'est un outil qui permet une immersion dans la cavité dans laquelle on travaille. Soit la cavité abdominale, soit la cavité thoracique, soit la cavité pelvienne. Donc c'est très intéressant pour toutes les chirurgies qui se faisaient dans des cavités un peu confinées où les mouvements en vidéochirurgie sont plus contraints. Le robot permet dans ces zones-là d'avoir une augmentation de la mobilité et de la vision du champ opératoire.
La machine est à l'œuvre, mais ce sont les mains du chirurgien qui opèrent. Elle est un prolongement du praticien, assure le docteur Théo Lombard.
Donc on a quatre bras qui sont totalement indépendants et qui vont être contrôlés par le chirurgien. On va avoir un bras dans lequel on va mettre l'optique, donc c'est l'œil du chirurgien. Et ensuite, on va mettre à disposition trois bras au chirurgien, c'est-à-dire un de plus que ce que la nature nous a doté, quoi. Un chirurgien à trois mains, exactement.
Le chirurgien a donc trois mains mécaniques, mais l'infirmière du bloc, Christelle Collineau, reste près du patient en chair et en os.
Moi, je garde les deux miennes, oui. Deux. Une main gauche et une droite. Oui, pour moi, c'est un petit peu comme une cœlioscopie, quand on fait de façon traditionnelle. Oui.
Depuis 1996, 12 millions d'interventions ont eu recours à un robot chirurgical en France, dont 1 million en 2023, signe que cette technologie est l'avenir de la chirurgie.
Et première opération avec l'assistance de ce robot, ce sera le 2 avril. Ce matin, nous reparlerons plus largement de l'hôpital de la Miséricorde, un peu plus d'un an après son déménagement au Stilet, ou avec son directeur général Jean-Luc Pêche, que nous recevrons, Christophe, à 8h moins le quart.
Et on devrait en savoir plus ce mi-avril sur la reprise en Corse des enseignes Casino.
Et oui, un mois après la validation par le tribunal de commerce de Paris d'un plan de sauvetage du groupe Casino, en Corse, quatre offres de reprise sont sur la table, dont une portée par des acteurs locaux adossé à une enseigne nationale. Hier matin, Jean Pastor, qui est délégué CGT Casino et porte-parole nationale de l'intersyndicale, était en Corse. Il a indiqué que selon la nouvelle direction générale, on se dirigerait vers une vente totale et non une découpe du groupe Codim, qui détient les enseignes sur l'île. Le syndicaliste qui n'a pu que constater quand même le désarroi des nombreux salariés en Corse face à la situation.
Il y a des questions qui se posent, et à juste titre, selon l'enseigne qui va les reprendre, est-ce que le siège va rester ? Est-ce qu'il va y avoir la mise en place d'un PSE pour alléger le siège ? La question qui se pose aussi, et que les salariés sont en droit de se poser, c'est l'emploi. Est-ce que tous les emplois seront conservés ? Et la qualité de l'emploi ? Est-ce que les conventions collectives, parce qu'il y a des accords d'entreprise qui sont en vigueur en ce moment, et au bout de 15 mois qu'à l'entreprise est cédée, je veux dire, il y a une survivance de 15 mois de ces accords. Est-ce qu'il y aura des nouveaux accords qui vont le remplacer, ou est-ce qu'on va tomber à la convention collective nationale ? Après, il va y avoir aussi des rétrocessions par rapport à l'autorité de la concurrence qui va devoir se positionner selon l'enseigne qui aura récupéré la mise sur certains territoires corses où il y aura peut-être une implantation trop forte de cette enseigne.
Le budget primitif de la ville d'Ajaccio a été adopté hier soir.
Et oui, en vote sans les voix de l'opposition, dont les rangs étaient clairsemés. Donc hier soir, ce budget primitif s'élève à 191 millions d'euros. Il est marqué par une part plus nette de l'investissement à 35%, c'est-à-dire 67 millions d'euros, mais des charges de personnel de 72 millions d'euros et une dette qui s'élève donc à 78 millions. Pour autant, le maire Stéphane Sbradj a rappelé qu'il multipliait les projets, signe d'une vision pour Ajaccio. Il a recadré au passage l'opposition en objectant que la collectivité de Corse devrait mieux financer les charges de centralité, ces services supportés par les villes-centres qui ne bénéficient pas qu'à leurs habitants.
Je vous ai expliqué à plusieurs reprises que ces charges de centralité, c'est pas, et là on ne parle pas de fonds de concours, on parle effectivement d'une subvention au fonctionnement sur des équipements qui concernent une utilisation qui va au-delà du territoire ajaccien. Voilà, c'est pas une quête de mendicité, c'est simplement à un moment donné une juste répartition des coûts selon différentes strates administratives. Allez convaincre la collectivité de Corse, il faut absolument que vous contribuiez au niveau des charges de centralité sur le budget de fonctionnement. Vous verrez que la prochaine fois qu'on se verra, si cette convention est signée avec la collectivité de Corse, on se sentira beaucoup plus léger.
Et des propos recueillis par Paul Hortol et toute l'actualité, bien sûr, à retrouver sur Bleu RCFM et sur nos réseaux sociaux. On va prendre tout de suite des nouvelles du temps avec vous, Christophe. On va voir que ça se gâte. Hein. Ça a commencé d'ailleurs.
Temps humide ce matin.